Alors, tout ça va donner lieu à différentes valorisations, hein, comme on l'a évoqué, à travers ces outils documentaires qui ont été faits. Et on a trois grands types de valorisation, comme je l'ai déjà évoqué. On va avoir, premièrement, ce qui est un peu l'usage historique de l'INA, c'est l'accès aux professionnels. Parce que, de l'origine, l'INA a été fait pour les professionnels. Garder des images qui sont des stocks que l'on va réutiliser pour la diffusion. Hein, c'était la seule utilité que l'on pouvait envisager à l'époque des archives de la télévision. C'était pas de la culture, donc on la gardait pas pour faire de la mémoire. C'était pas du dépôt légal, donc on la gardait pas pour les chercheurs. Donc on la gardait uniquement dans une optique de réutilisation. Et comme on voyait pas très bien comment réutiliser, de toute façon, personne n'en voulait. TF1 ne voulait pas de ces archives, France 2 ne voulait pas de ces archives, c'est pour ça que l'INA a pu les avoir. Hein. Ce n'est pas par bonté d'âme qu'ils nous ont donné, c'est tout simplement parce que ça les libérait, hein, d'un poids où ils ne savaient pas très bien quoi en faire. Donc c'était un usage historique et l'INA, grâce à la numérisation, a offert un service, hein, INA Media, je vous montrerai une petite démo tout à l'heure, où ça représente aujourd'hui eh bien 400 000 heures hein, d'images qui sont numérisées et en ligne sous forme d'extraits, sous forme de programmes hein, auxquels on peut que l'on peut consulter. Donc ça fait 2 millions de notices documentaires et c'est accessible par un extranet hein, où les professionnels viennent s'inscrire, ils ont une accréditation donnée par l'INA et donc ils peuvent commander et se faire livrer des images en ligne. Donc en gros, on est passé à peu près à un mois de relation commerciale avec un client à l'espace de 48 heures ou 72 heures pour gérer une commande du début jusqu'à la fin. Alors l'international, ben, il y en a quand même un peu parce que le gros problème des archives, c'est qu'elles sont très typées par leur langue et leur culture. Une archive en français, bon, c'est vrai que, il y a peu de chances qu'elle soit lue par un public non francophone, mais néanmoins, il y a des pics, par exemple. Le Japon adore tout ce qui est Alain Delon, Mireille Mathieu, etc. Donc, on vend beaucoup d'Alain Delon, de Mireille Mathieu là-bas. Il y a d'autres pays qui ont d'autres accès et d'autres intérêts par rapport à nos contenus. Donc, voilà, donc on arrive à avoir des pics à l'international. Mais majoritairement, la valorisation des archives reste non pas nationale, mais dans le même bassin culturel. En gros, c'est le public francophone pour les archives francophones, le public anglophone pour les archives anglophones, hein, italienophone pour ben, voilà, lusophone, etc. Les archives voyagent peu d'une culture à une autre. C'est un point à prendre en compte sur notamment toutes les grands rêves sur les bases internationales d'archives, par exemple.